France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Masnasavoy.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et scientifique aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque semaine, l'un d'entre eux vient nous en parler et aujourd'hui, notre invité, philosophe, a choisi d'évoquer une œuvre publiée en 1576. Une œuvre qui, quand on la lit, nous percute tant sa question reste d'actualité. Quelle question? Celle de la servitude volontaire. Celle qui fait que des millions d'hommes et de femmes consentent à se soumettre au pouvoir d'un seul. Mais oui, pourquoi sommes-nous d'accord et même plus à perdre notre liberté? Comment en arrive-t-on là? C'est le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie.
C'est à Montaigne que la Boétie doit le plus clair de son immortalité. L'auteur des essais lui consacre le chapitre fameux de l'amitié et se fait le premier éditeur des sonnets du poète. Il eut aussi publié son discours de la servitude volontaire si les protestants ne s'en étaient emparés pour le joindre sous le nom de « Contre un » à un recueil de pamphlets contre Charles IX. Tout ce qui compte à cette époque semble s'accorder à reconnaître l'éminente réputation de la Boétie. Ce jeune conseiller du Parlement de Bordeaux sera, de l'avis unanime, appelé aux plus hautes charges de la nation. Il est de ceux très rares en ce temps-là qui se préoccupent de fonder en droit la liberté de conscience. Le discours de la servitude volontaire est une analyse parfois furieusement éloquente de la psychologie de l'esclave et du tyran. Ce petit livre, vieux de 4 siècles, vit encore, il reste aussi actuel que l'éternel danger de la tyrannie. C'est un appel au peuple qui s'asservit lui-même et crée ses tyrans de sa propre lâcheté.
Bonjour Paul Audy.
Bonjour Géraldine Masnasavoy.
Bienvenue dans le souffle de la pensée, je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes philosophe et écrivain, vous êtes l'auteur d'une 30aine d'ouvrages, plusieurs sur l'esthétique et l'éthique, comme celui à paraître aux éditions Flammarion, Le vrai du beau regard sur la peinture. Mais vous êtes aussi l'auteur d'ouvrages plus récents, plus politiques, je peux citer Tenir tête ou Troublante identité, tous les deux parus aux éditions Stock. Alors j'annonce quand même votre œuvre, Paul Audy, parce que effectivement, vous avez choisi de parler du discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, qui est un texte fondamentalement politique, mais qui n'est pas un champ dans lequel vous avez travaillé toute votre vie. Alors pourquoi? Pourquoi Étienne de la Boétie aujourd'hui?
Eh bien, parce que lorsque vous m'avez posé la question « Quel est le livre qui vous a marqué ?», j'ai eu tout de suite beaucoup de mal à identifier un point d'origine, un point suffisamment fort qui m'a fait faire de la philosophie. Mais je pense que si j'en suis venu à Rousseau, et Rousseau aura été le philosophe de ma vie, si vous voulez. J'ai fait ma thèse sur Rousseau. J'ai écrit 4 livres sur Rousseau.
Il y en a un prochain qui va aussi
oui,
sortir.
Oui, il y en a un qui va sortir, c'est vrai. Eh bien, c'est parce que j'ai lu à un âge, au sortir de l'adolescence, pour la première fois en terminale, recommandé par le professeur de philosophie de terminale, le discours de la servitude volontaire, qui m'a moyennement marqué dans la mesure où j'ai eu du mal à le lire. L'ancien français et la pensée alambiquée et en même temps allusive de la Boétie dans le texte m'avait en quelque sorte posé des problèmes d'intelligibilité, mais j'ai senti que la thématique de la liberté résonnait en moi comme aucune autre. Et c'est en Cagne, alors même que je me destinais à faire des études de lettres, je ne pensais pas du tout devenir philosophe, c'est en Cagne que j'ai relu, à cause du programme de préparation du concours de l'école normale supérieure, que j'ai relu le discours, et c'est à ce moment-là que ce livre m'a frappé comme la foudre. Et cette force d'impact du discours de la Boétie n'a pas cessé finalement d'avoir des répercussions en moi. Et donc, elle m'a conduit à partir, lorsque j'ai eu l'âge de 24 ans, 25 ans, à m'intéresser passionnément à Jean-Jacques Rousseau.
Alors voilà, c'est la question que j'allais vous poser, Paulodie. Pourquoi vous n'avez pas choisi Jean-Jacques Rousseau aujourd'hui, avec qui vous avez passé toute votre vie? Vous avez dit que vous l'aimez passionnément, mais pourquoi pas Jean-Jacques Rousseau? C'est trop, en fait, ou une heure, c'est pas assez, peut-être?
Non, parce que j'ai pensé que vous indiquez l'étincelle plutôt que le feu, c'était mieux. Et j'ai souvent parlé de Rousseau et j'avais envie de parler de la Boétie, surtout aujourd'hui, où la question de la liberté et de la liberté renoncée au profit de la tyrannie ou de la dictature ou de pouvoir coercitif, dominateur, est une question qui est plus brûlante que jamais. Donc j'ai proposé de discuter
l'étincelle.
L'étincelle, oui.
Mais vous mettez aussi le doigt, Paulodie, sur quelque chose avec ce texte, le discours de la servitude volontaire de la Boétie, qui au cœur de ce texte, c'est un discours. Il fait une cinquantaine de pages. Alors, il peut se lire facilement parce que moi, pour ma part, je l'ai lu en français moderne, donc pas comme vous, en ancien français. Et effectivement, en ancien français, je me suis trompée d'édition au départ. Je me suis lancée, je me dis, tiens, bon, ok, je comprends pas trop, concentre-toi. Mais j'ai très vite compris, effectivement, qu'il fallait mieux que j'aie la traduction en français moderne. Mais effectivement, c'est un discours qui est rapide, qui est clair. L'idée, elle est simple. On a l'impression qu'il n'y a pas de questions qu'on peut poser à ce texte. Tout est livré tel quel. Il y a une opposition claire, et on va peut-être y revenir, peut-être même un peu réductrice, qui est, il y a les sociétés libres et il y a les sociétés assujetties. On a l'impression même que c'est un texte qui est trop simple, qui est pas assez complexe. Étienne de la Boétie, je le précise, l'a écrit, c'est Montaigne qui le dit, quand il avait 16-18 ans. Donc on était en 1546-48. Il a été publié quand il était fonctionnaire de l'État, mais c'est pas non plus, Étienne de la Boétie, une figure révolutionnaire, en révolte, c'est pas un pamphlétaire. Voilà. Donc effectivement, ce texte, il vit par lui-même et on a l'impression qu'on n'a rien à en déplier.
Alors c'est vrai que il y a un côté adolescent dans ce texte qui résonne parfaitement bien dans la conscience adolescente, en tout cas la mienne et celle de tout adolescent qui s'il lit ce discours se sent en quelque sorte exalté et pris par un vent de révolte contre tous les pouvoirs dominants. C'est vrai. En même temps, ce qui caractérise ce discours, c'est qu'il pose une question, mais la réponse n'est pas donnée. Cette servitude volontaire, qui est un paradoxe absolu, cette servitude reste une énigme. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui m'avait beaucoup frappé, c'est que la philosophie, si vous voulez, elle est davantage dans l'énonciation de questions que dans la formulation de réponses. Elle est là en train de se heurter à quelque chose d'inintelligible, mais précisément pour percer ce mur, il faut densifier l'inintelligibilité de la chose. Et c'est ce que fait Étienne de la Boétie. Il garde à la servitude volontaire son caractère d'énigme. Il lui garde toute sa force. Et d'ailleurs, dans le texte, il va essayer de dénouer l'énigme, de trouver la clé de ce paradoxe.
Mais oui, parce qu'une énigme, on peut la décoder.
Oui, on peut la décoder.
C'est pas un mystère. Non. C'est différent d'un mystère qu'on ne peut pas dévoiler.
C'est ce qu'il fait. Il va en quelque sorte aller du côté de trois raisons explicatives de la servitude volontaire. La première, c'est la coutume.
Ou l'habitude, oui.
Voilà, ou l'habitude. Les deux mots. La coutume est le mot qu'emploiera davantage Montaigne quand il parlera justement du discours, mais la Boétie lui-même parle d'habitude. Il y a aussi la mystification. c'est-à-dire l'illusion dans laquelle on est pris sous le joug du tyran. On pense être libre, mais en fait, on ne l'est pas.
On s'illusionne.
Et puis, il y a une troisième explication de cette servitude volontaire qui passe par l'intérêt personnel. On a quelque chose à gagner en jouant le jeu de la servitude, en abandonnant sa liberté. On a quelque chose à gagner, donc on va renoncer à quelque chose au profit de quelque chose d'autre. Et très souvent, comme le montre Étienne de la Boétie, quand on se soumet à un pouvoir, c'est à la condition que l'on puisse soumettre d'autres à son propre pouvoir. C'est-à-dire qu'on renonce à quelque chose vers le haut, mais qu'on consolide quelque chose qui tend vers le bas. Et donc, ces trois explications, elles sont données par la Boétie, mais elles sont en même temps récusées par la Boétie. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois explications, elles sont récusées comme étant le fruit du discours du tyran. C'est le tyran qui nous fait croire que c'est la coutume ou c'est la tradition qui devrait nous rendre serfs plutôt qu'être libres. C'est le tyran qui nous pousse à cette illusion de liberté. On se sent en quelque sorte partie prenante de quelque chose alors qu'on est totalement exclu. Et puis, en même temps, c'est le tyran qui nous induit à croire à la culture d'un intérêt personnel, puisqu'il va lui-même nous donner une forme de compensation par rapport à ce que nous avons perdu en termes de liberté. Et cette déconstruction, si vous voulez, du discours du tyran fait partie de ce grand discours qu'il donne. Et pour autant, après avoir fait cela, l'énigme reste entière. Alors on en parlera encore.
Et c'est pour ça que ce discours à la fois hante, mais en même temps qu'il se referme sur lui-même et qu'on est obligé de le compléter comme vous l'avez fait avec, par exemple, Jean-Jacques Rousseau. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut lire la Boétie tout seul en tant que tel? Ça éveille quelque chose? Ça peut même rendre, vous allez me dire oui ou non, Paul le dit, un peu paranoïaque. C'est-à-dire que est-ce qu'on n'a pas tendance à penser qu'on est tout le temps trompé? Ou alors, ça a peut-être tendance aussi à se dire, bon, on est éveillé, il faut être vigilant, mais c'est tout.
Alors, votre manière de présenter les choses suppose que ce discours est un discours qui traite du pouvoir, et du pouvoir dominateur, du pouvoir coercitif, du pouvoir face auquel il n'y a plus de liberté exprimable possible. Mais ce n'est pas l'objet de ce discours. L'objet de ce discours n'est pas du tout sur le pouvoir. Il parle certes de la tyrannie, longuement, mais ce qu'il pointe, c'est la liberté. Et de quoi cette liberté est-elle faite? Et quelles sont les conditions pour que la liberté puisse se déployer dans un espace qui a affaire avec la présence des autres, dans un espace de coexistence? Que se passe-t-il avec cette liberté dès lors que nous sommes au milieu de nos semblables? C'est ça la grande question que pose ce discours. Alors certes, il est en opposition non pas à un seul pouvoir, le pouvoir monarchique, il est en opposition à tous les pouvoirs, parce que l'antonyme, si vous voulez, de la liberté, c'est le pouvoir. Mais à partir du moment où l'on a posé cela, reste la question de la liberté et de cette énigme. Comment se fait-il que la liberté se retourne contre elle-même? Comment se fait-il que cette liberté que nous avons, nous nous en dépossédons? Pourquoi? Que se passe-t-il? Quelle est cette étrange folie qui nous habite, ce vice suprême, puisqu'il emploie ce mot, ou ce crime qui attente à ce qui nous a toujours été donné, à savoir cette liberté première qui nous constitue et qui donne sens à notre essence.
Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, ça marche encore quand on le lit. C'est-à-dire qu'on a entendu l'archive au départ qui présentait la Boétie, elle date de 1953. Mais aujourd'hui, cette question-là, aussi simple soit-elle, elle se pose, mais d'une force. C'est-à-dire que là, le relire aujourd'hui, c'est se dire rien n'a changé dans cette question fondamentale de pourquoi est-ce que j'accepte ? Mais même plus qu'accepte, je cherche à me dépouiller de ma liberté tout en pensant être en fait dans quelque chose de juste, de droit, sans me tromper.
Alors il y a une très grande tradition de la conception de la liberté qui est née de ce discours, qui est née en fait de la pensée de la Renaissance et qui s'est incarnée dans des textes très importants. Alors, il y a effectivement la Boétie, il y a Montaigne, il y a ensuite Rousseau.
Donc ça, ce sont vraiment les trois auteurs que vous aimez.
Oui, alors ce sont des auteurs que j'aime énormément, qui m'importent au plus haut point. Mais il y a Nietzsche aussi, il y a Freud, il y a Hannah Arendt, et puis il y a les très grands commentateurs de la Boétie qui nous ont fait comprendre à quel point ce texte n'était pas un texte sur les régimes politiques, sur la structure du pouvoir.
C'est pas la République de Platon, c'est
un texte d'anthropologie politique, ouais, qui ouvre sur la question de la subjectivité humaine et sur la question de l'humanité de l'homme. Donc à partir de là, il y a eu, avec ces grands commentateurs, et je pense à Claude Lefort, à Miguel Abensur, mais aussi à Pierre Clastre, il y a eu une sorte de réappropriation du sens de ce discours qui a longtemps été placé à l'intérieur de la philosophie politique, alors qu'il s'agit d'un discours qui porte sur l'humanité de l'homme.
Est-ce que c'est ça, cette question de l'humanité de l'homme ? Qu'est-ce qui fait que l'homme est humain ? Qui fait que la Boétie est un texte qui vous accompagne encore aujourd'hui, qui a créé l'étincelle, qui a peut-être installé une question qui a accompagné vos travaux, Paul Audy ?
C'est vrai, c'est cette dimension-là. C'est cette dimension-là. En fait, je ne me suis jamais consacré à la philosophie politique à proprement parler. Elle a toujours été, en quelque sorte, un arrière-plan.
Alors vous avez travaillé sur Rousseau.
Oui, alors justement, lorsque j'ai travaillé sur Rousseau, j'avais d'abord, je m'étais engagé dans une thèse sur le contrat social et je n'avançais pas parce que les prémices qui étaient les miennes se sont révélées inopérantes. Et donc, j'ai changé mon fusil d'épaule, si j'ose dire, et je me suis intéressé à l'éthique de Rousseau. Ce n'est que 20 ans plus tard que je suis retourné au contrat social et que j'ai consacré un livre à cette question. Mais sur le moment, si vous voulez, la question politique me faisait horreur, en fait. Pour des raisons biographiques, je ne voulais pas en entendre parler.
Parce que vous êtes né au Liban.
Oui, je suis né au Liban. Je suis arrivé à cause de la guerre civile. J'étais très jeune. Tout ce qui relevait de la politique prenait un visage diabolique pour moi et je ne voulais pas en entendre parler. Ce n'est que très longtemps après et précisément à travers une autre entrée, une autre porte qui est celle de la question de la liberté, que je me suis réintéressé à ces questions, que le politique est devenu une instance fondamentale à mes yeux, alors que auparavant c'était plutôt une sorte d'épouvantail. Et d'ailleurs, pour venir vous parler aujourd'hui, j'ai évidemment relu le discours et j'ai retrouvé certaines sensations de lecture de ma jeunesse. C'est-à-dire que j'ai compris pourquoi ce texte m'avait autant saisi, autant bouleversé. C'est parce que il est loin d'être un texte de philosophie politique. Il parle de la nature humaine. Et cette nature humaine, il l'inscrit dans l'énigme de ce don qui nous est fait, le don de la liberté. Alors, on pourra peut-être essayer de dénouer cette énigme du retournement de la liberté, parce que ce que, finalement, ce discours dit, c'est l'extrême fragilité de cette liberté. Cette incroyable capacité qu'elle a à ne pas pouvoir demeurer, à ne pas pouvoir être elle-même, à être constamment concurrencée par des forces et des impulsions qui la nient. Si ce texte est aussi exaltant, aussi galvanisant, c'est parce qu'il met l'accent sur cette vigilance que nous devons toujours avoir de maintenir ce trésor de la capacité de liberté qui est la nôtre contre tout ce qui essaye de l'annihiler. Et la grande intelligence du texte, c'est de comprendre que ce qui cherche à annihiler la liberté, c'est beaucoup elle-même. C'est par elle-même que la liberté cherche à se nier. Alors, ça rend la chose encore plus énigmatique. Comment se fait-il qu'une liberté se retourne contre elle-même
et que je sois libre de nier ma liberté?
Oui. Alors, si vous voulez, on pourrait en parler.
Oui, on peut écouter un texte de la Boétie,
voilà,
parce que je pense qu'on peut revenir précisément sur cette question.
Je désirerais seulement qu'on me fît comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois tout d'un tyran seul, qui n'a de puissance que celle qu'on lui donne, qui n'a de pouvoir de leur nuire qu'autant qu'ils veulent bien l'endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun mal s'ils n'aimaient mieux tout souffrir de lui que de le contredire. Chose vraiment surprenante, et pourtant si commune qu'il faut plutôt en gémir que s'en étonner, c'est de voir des millions de millions d'hommes misérablement asservis et soumis tête baissée à un joug déplorable, non qu'ils y soient contraints par une force majeure, mais parce qu'ils sont fascinés et pour ainsi dire ensorcelés par le seul nom d'un qu'ils ne devraient redouter, puisqu'il est seul, ni chérir, puisqu'il est, envers eux tous, inhumain et cruel. Telle est pourtant la faiblesse des hommes. Contraints à l'obéissance, obligés de temporiser, divisés entre eux, ils ne peuvent pas toujours être les plus forts. Si donc une nation, enchaînée par la force des armes, est soumise au pouvoir d'un seul, comme la cité d'Athènes le fut à la domination des 30 tyrans, il ne faut pas s'étonner qu'elle serve, mais bien déplorer sa servitude, ou plutôt ne s'en étonner ni ne s'en plaindre. Supporter le malheur avec résignation et se réserver pour une meilleure occasion à venir.
Extrait du discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, lu par Nicolas Berger, c'est la transcription en français moderne par Charles Tess. C'est vous, Paul Audy, qui nous avez suggéré ce texte qui est incroyable, mais j'ai envie de dire presque tous les moments sont quand même forts, incroyables, actuels, transhistoriques, comme le dirait Pierre Clastres, l'anthropologue qui commente ce texte. Mais il y a quand même une idée dans ce texte qu'on exploite peu, qu'on dit peu, c'est cet ensorcellement, cette fascination. Mais qu'est-ce qui fait, Paul Audy, qu'on est fasciné par la puissance d'un seul? Est-ce que c'est un ressort psychologique qui est en jeu? Est-ce que c'est un mécanisme social, voilà, de répartition du pouvoir avec quelqu'un qui domine et des dominés? De quoi nous parle la Boétie ici?
Alors, la Boétie parle de ce moment de basculement. D'ailleurs, il a une expression qui ne se retrouve pas malheureusement dans la transcription de Charles Test que nous avons écouté, qui est une transcription en français moderne du 19e siècle. D'ailleurs, Miguel Abensur a cette excellente formule. Il dit que sa transcription est faite en langue militante du 19e siècle. Charles Test étant un communiste de tendance néo-babouviste. Donc il y a quelque chose de très militant dans cette traduction. Elle est très belle. Et elle est d'autant plus belle qu'elle est bouleversante aujourd'hui à l'écouter après ce que nous savons de ce qui se passe actuellement en Iran, par exemple, où manifestement un vent de révolte s'est levé. Et cette phrase sur l'enchantement et le charme.
Oui. C'est ça que ne traduit pas Charles Test.
Si, si. Non.
Ça, il le traduit bien.
Ce qu'il ne traduit pas, c'est cette bascule entre deux formulations qu'a la Boétie, entre le tous un,
oui,
qui est mis au pluriel, et le tous un qui est mis au singulier. Toute l'énigme de la servitude volontaire se tient à l'intérieur de ces deux notions. Elles se font face et elles s'opposent et elles se contredisent. Le tous un, avec un, U-N-S, n'a rien à voir avec le tous un lorsque le un dit le U-N avec un grand U. On passe du tous un, c'est-à-dire des conditions en fait d'existence de la liberté au milieu de ses semblables, où il y a une égalité foncière entre les uns et les autres, où en fait ce qui structure, si vous voulez, le corps social, ce sont des individus qui n'ont de rapport entre eux que par la médiation de leur singularité. Ce qu'on regarde dans l'autre, c'est sa singularité. Et cette singularité, il faut la reconnaître.
Alors, redites-nous bien cette idée, Paul Audy, parce que c'est important.
C'est-à-dire
que.
Important.
Alors, c'est un texte, c'est une idée sur laquelle on va revenir avec le prochain texte, mais elle est vraiment importante parce que c'est le cœur du sujet.
Alors, c'est le cœur du sujet parce que ce que fait la Boétie, et je vous ai dit, c'est pas un texte sur le pouvoir, mais c'est un texte sur la liberté. Ouais. C'est quoi la liberté? Pour la Boétie, la liberté, elle est d'abord résolument politique. C'est-à-dire que elle n'existe qu'à condition qu'elle existe dans des conditions sociales qui la rendent possible. Les conditions sociales ne la rendent pas possible, il n'y a pas de liberté. Cette liberté doit s'épanouir. Et elle ne peut s'épanouir que dans un contexte social d'égalité absolue entre les êtres. S'il n'y a pas cette égalité absolue, et on comprend par là à quel point Rousseau a pu être frappé et influencé par le discours de la Boétie, eh bien, il n'y a pas de liberté possible. Donc, si vous voulez, il y a une circularité, il y a une circularité herméneutique pour comprendre ce dont il y va avec la liberté. Il y a une circularité entre les conditions d'existence sociale et la liberté, entre l'égalité, qui est un préalable absolu, et l'existence de la liberté. Et c'est ça que pointe d'abord la Boétie. Il est le premier à le faire. Il est le premier à le faire de manière, si vous voulez, tellement imbriquée entre l'égalité et la liberté que que la première ne s'explique que par la seconde,
oui,
et vice-versa. Ça, c'est tout à fait nouveau.
Est-ce que d'ailleurs, il emploie les termes de liberté et d'égalité tels qu'on les entend aujourd'hui? Parce que c'est... Vous voyez, quand on dit la liberté, le problème de ça, c'est-à-dire que vous dites très bien, Paul Audy, que la Boétie ne fait pas un texte sur le pouvoir, mais sur la liberté. C'est ça qui vous a intéressé. Mais la liberté, c'est une notion extrêmement vague. L'écueil de la liberté, c'est qu'elle est, on pourrait dire qu'elle est tellement libre qu'elle-même, on a du mal à la cerner, à dire de quoi elle est faite. Est-ce que c'est la liberté de pouvoir être soi-même? Est-ce que c'est la liberté de pouvoir se promener dans une rue en toute sécurité? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est avoir des droits? Vous voyez? Enfin, et puis aujourd'hui, la liberté, c'est tellement un grand mot, un peu fourre-tout. La Boétie, c'était quoi ce qu'il avait en tête comme liberté, certes politique? Mais bon, en 1550, de quelle liberté parle-t-on politiquement?
Il avait en tête l'absence de contraintes venant d'un pouvoir extérieur à soi. C'est-à-dire la constitution d'un pôle extérieur à la société qui puisse en quelque sorte dominer la société et la régir. C'est dans ces conditions-là que la liberté s'abolit. L'introduction du thème de la liberté est une introduction négative, si vous voulez. La liberté est la non-contrainte imposée par un pouvoir extérieur à soi. Mais à partir de là, on entre dans la question des conditions d'existence de la liberté.
Donc dans une version plus positive.
Et donc d'un modèle de la société qui puisse ne pas être entièrement polarisé par l'existence d'une unité dominante qui lui soit extérieure. Savoir le tyran, par exemple.
Ce qui veut dire, Paul-Audy, quand vous dites qu'il y a une circularité entre les conditions sociales et la liberté, vous avez dit, la Boétie en creux se demande, voilà, quelles sont les conditions sociales qui rendent possible la liberté.
Oui.
Mais on a l'impression, en le lisant, qu'il se pose plutôt la question inverse. La liberté est, et on voit qu'il y a des conditions sociales qui empêchent la liberté d'être effective. Il part d'ailleurs de cette situation négative.
Il part toujours de la situation négative pour faire reconnaître ce point d'origine qui tient à notre nature. Nous sommes des êtres libres en tant qu'êtres humains. Nous avons accès à notre raison. Notre raison nous pousse à agir volontairement. Et tout le but de la Boétie, c'est de nous réapproprier, c'est de nous donner envie de nous réapproprier ce que nous avons déjà. Et c'est tout le problème.
Voilà.
C'est tout le problème. Parce que c'est là que, si vous voulez, il pointe quelque chose. Il pointe la peur qui est en nous, qui est inhérente à notre être, c'est la peur de n'être rien. La peur de n'être rien. La peur qui nous prend, mais pas quand on a le sentiment d'être peu. Au contraire, quand on a le sentiment d'être trop. D'être trop de choses en même temps. Et de nous disperser. Nous avons en quelque sorte besoin de nous unifier en nous-mêmes. Le trop que nous sommes, parce que nous sommes toujours trop.
Ou nous voulons être trop?
Non, nous sommes toujours trop. Notre identité, en fait, est toujours réductrice. Réductrice de ce que nous sommes. Lorsque nous disons « je suis ceci ou cela », c'est déjà une réduction par rapport à tout ce que nous sommes. Donc nous choisissons un point de réduction à partir duquel nous forgeons notre unité et nous espérons que cette unité va nous faire devenir quelqu'un, comme on le dit.
Oui.
Mais ce quelqu'un, en fait, masque cette pluralité constitutive qui fait que nous vivons au milieu d'une multitude d'attributs.
Et ces attributs... On a plusieurs identités. Qu'on appellerait une identité ouverte.
Mais elle est constamment ouverte parce que nous sommes en permanence dans un processus d'identification. Il n'y a pas d'identité arrêtée.
Mais alors, ce ne sont pas les conditions sociales qui empêchent aux hommes d'être libres. C'est pas un tyran tout à coup qui arrive en disant
non.
Je vais vous confisquer.
Justement.
C'est une condition presque psychologique.
Psychologique.
L'ensorcellement. Psychologique. La peur de n'être rien.
Exactement. Anthropologique. Et c'est ça qui est passionnant dans ce texte-là. Et c'est en ce sens-là que ce n'est pas un texte contre le pouvoir. C'est un texte de vigilance par rapport au legs qui est le nôtre, à savoir que nous sommes libres, nous sommes nés libres.
Et nous l'oublions.
Et nous l'oublions.
Alors, il y a un texte qui m'a, un extrait qui m'a fasciné à un moment donné, Paul Audy, où la Boétie rappelle que nous devenons obsédés, c'est-à-dire que nous intériorisons cette servitude à l'égard du tyran. Et il dit, ce n'est pas tout de lui obéir, il faut lui complaire, il faut qu'il se rompe, se tourmente, se tue à traiter ses affaires, qu'il ne se plaise que de son plaisir, qu'il sacrifie leur goût au sien, ils sont attentifs à ses paroles, à sa voix, à ses regards, à ses moindres gestes. Ça n'est pas la faute du tyran, c'est de notre faute, Paul Audy.
Oui, c'est de notre faute. Et c'est tout l'intérêt de ce paradoxe de la servitude volontaire. Mais la servitude volontaire, ça n'a rien à voir avec l'esclavage. L'esclavage est imposé de l'extérieur et il nous rend passifs dans notre acceptation. Alors que la servitude volontaire parle d'une acceptation active. La Boétie va même jusqu'à dire ceci, c'est le peuple qui s'asservit, qui se coupe la gorge, qui, ayant le choix ou d'être serf ou d'être libre, quitte la franchise et prend le joug, qui consent à son mal, ou plutôt le pourchasse. Alors, quand la Boétie parle de pourchasser son mal, il donne à la servitude volontaire une forme extrêmement active. C'est comme si on allait chercher sa servitude en surmontant sa réticence qui repose sur son désir de liberté, qui repose sur l'expérience de la liberté que nous éprouvons en nous. C'est ça qui est intéressant et important. Alors, la grande phrase pour moi du texte, c'est celle-ci. Que nous soyons tous naturellement libres, puisque nous sommes tous compagnons. Et ne peut tomber en entendement de personne que nature ait mis aucun en servitude, nous ayant tous mis en compagnie. C'est cette mise en compagnie, c'est-à-dire cette similitude que nous avons dans le commerce avec les autres, cette mise en compagnie qui nous fait comprendre le sens de la liberté, et c'est l'expérience de la liberté qui nous fait comprendre le sens de la socialité.
Cette phrase, elle fait partie du texte dans une autre version du prochain texte qu'on va écouter, Paul Audy. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
Très bien.
Ce qu'il y a de clair et d'évident pour tous, et que personne ne saurait nier, c'est que la nature, premier agent de Dieu, bienfaitrice des hommes, nous a tous créés de même, écoulés en quelque sorte au même moule, pour nous montrer que nous sommes tous égaux, ou plutôt tous frères. Et si, dans le partage qu'elle nous a fait de ses dons, elle a prodigué quelques avantages de corps ou d'esprit aux uns plus qu'aux autres, toutefois, elle n'a jamais pu vouloir nous mettre en ce monde comme en un champ clos et n'a pas envoyé ici-bas les plus forts et les plus adroits comme des brigands armés dans une forêt pour y traquer les plus faibles. Il faut croire plutôt que faisant ainsi les parts, aux uns plus grandes, aux autres plus petites, elle a voulu faire naître en eux l'affection fraternelle et les mettre à même de la pratiquer, les uns ayant puissance de porter des secours et les autres besoin d'en recevoir. Ainsi donc, puisque cette bonne mère nous a donné à tous toute la terre pour demeure, nous a tous logés sous le même grand toit et nous a tous pétris de la même pâte, afin que, comme en un miroir, chacun puisse se reconnaître dans son voisin, si elle nous a fait à tous ce beau présent de la voix et de la parole pour nous aborder et fraterniser ensemble, et par la communication et l'échange de nos pensées, nous ramener à la communauté d'idées et de volontés, si elle a cherché par toutes sortes de moyens à former et resserrer le nœud de notre alliance, les liens de notre société, si enfin elle a montré en toute chose le désir que nous fussions non seulement unis, mais qu'ensemble nous ne fissions pour ainsi dire qu'un seul être, dès lors, peut-on mettre un seul instant en doute que nous ne soyons tous naturellement libres, puisque nous sommes tous égaux ? Et peut-il entrer dans l'esprit de personne que nous ayant mis tous en même compagnie, elle ait voulu que quelques-uns y fussent en esclavage ?
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Alors, que s'est-il passé, Paul Audy, pour que la nature nous ait fait ainsi et que nous renoncions à notre liberté ? Quelle est la bascule ? Quel est le retournement de la liberté contre elle-même ?
Alors, on aura compris d'abord, à l'écoute du texte que vous venez de passer, la bascule se manifeste dans un moment de division de la société. La société se divise en deux. Il y a les dominants et les dominés. Il y a les supérieurs et les inférieurs. Il y a quelque chose qui se produit alors que ça ne devait pas se produire. Car le corps social originel est un corps social qui n'est pas habité par ces attributs de division qui se constituent précisément au moment où l'égalité, qui est le fond sur lequel se détache la liberté, disparaît au profit du pouvoir qui s'extériorise et qui, en surplomb, crée ces hiérarchies. Donc ça, c'est le cadre général à partir duquel la Boétie pense la question de la liberté. Sur ce, se pose la question de ce retournement, puisqu'il ne s'agit pas, évidemment, de la simple soumission à la volonté du tyran. Il y a quelque chose qui se produit pour que cette division se passe. Alors, historiquement, si vous voulez,
oui.
La Boétie n'a pas véritablement de réponse. Il n'y a pas historiquement un moment où ça s'est passé.
Et puis, il ne propose pas non plus de fiction, comme un Rousseau, par exemple, qui, dans le discours sur l'inégalité, peut postuler différents moments.
Il n'a pas recours à un état de nature, comme le fait Rousseau. Il parle simplement de malencontre, c'est-à-dire une sorte de coup du sort, de mauvaise fortune, d'une rencontre mauvaise qui se produit et qui fait que, en quelque sorte, nous sommes entraînés dans ce retournement de la liberté contre elle-même. Alors, Pierre Clastre en a fait le ressort de son analyse.
Son texte s'appelle « Liberté, malencontre, innommable ». On
exactement.
Trouve à la suite du discours de servitude volontaire. C'est un anthropologue,
oui.
Quand même mouvance anarchiste.
Oui.
Dans ce texte, d'ailleurs, c'est intéressant parce que, qu'on vient d'entendre, la Boétie parle de société, il ne parle pas d'État. Et Pierre Clastre a écrit un texte célèbre en 1974 qui s'appelle « La société contre l'État ». Ce qui voudrait quand même dire qu'on pourrait lire la Boétie et même peut-être vous écouter, Paul Audy, comme un anarchiste.
Alors,
êtes-vous anarchiste ?
Alors, il n'est pas du tout anarchiste au sens où sa question première n'est pas du tout celle de la lutte contre le pouvoir. On l'a suffisamment dit. Sa question, c'est que se passe-t-il lorsque on ne reconnaît plus que nous sommes nés libres ? C'est ça la grande question. Et ça me permet, si vous voulez, de revenir à votre question première, à savoir comment se fait-il que la liberté, qui est un bien si grand et si plaisant, comme il dit, les hommes ne la désirent point. Comment se fait-il ? Mais en fait, ce que dit la Boétie est beaucoup plus subtil que ça. Il dit « la seule liberté, les hommes ne la désirent point ». Alors, il y a deux façons de comprendre. Soit il veut dire qu'on ne désire pas la liberté, ce qui est une absurdité, puisque cette liberté, elle nous constitue et nous ne voulons pas y renoncer. Mais ce qu'il dit, c'est que nous ne désirons point la seule liberté. Et par là, il veut dire que ce que nous désirons, c'est certes la liberté, mais c'est aussi à chaque fois autre chose. C'est à chaque fois quelque chose de plus et quelque chose qui viendrait avec elle. Nous désirons avoir quelque chose, nous désirons posséder quelque chose que nous n'avons pas, nous désirons avoir plus de pouvoir, nous désirons peut-être aimer, c'est-à-dire nous lier davantage avec un autre que nous. Mais la seule liberté, nous ne la désirons jamais. Et c'est là tout le problème. Nous ne reconnaissons jamais l'unicité de la liberté ou l'exclusivité de la liberté. La liberté, nous la mêlons toujours à autre chose. Pourquoi ?
Oui.
Parce que les autres choses, nous ne les avons pas.
Mais parce que justement, c'est ce que je
vous disais. Alors que nous avons la liberté.
Oui, mais c'est ce que je vous disais, Paul Audy. Là, le problème de la liberté, c'est que c'est une forme sans contenu.
Oui. Oui, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir que nous avons.
Et est-ce si absurde ?
C'est le « je peux » que nous avons. C'est « je peux faire ceci »,« je peux faire cela ». Oui, mais nous lâchons la proie pour l'ombre. Et c'est ça le malheur. La liberté, nous l'avons toujours déjà. Et c'est en voulant autre chose qu'elle que nous l'abandonnons. C'est ça le grand paradoxe. Et c'est ce que comprend le tyran. Et c'est ce que comprend très bien le tyran. Et c'est ce qu'il va faire. Ce que fait le tyran, et c'est ce qu'il nous fait à nous en tant que nous sommes ses sujets. Nous sommes ses sujets en lui donnant ce que nous avons, notre liberté. Mais lui, il sait qu'il a besoin de nous faire désirer des tas d'autres choses que ce que nous avons. Le tyran ou le pouvoir s'arrange pour nous les faire désirer. Alors, je vous donne un exemple.
Oui, allez-y.
Le capitalisme est un immense tyran qui fait naître en nous une quantité phénoménale de désirs que nous prenons vite pour des besoins, par la force de l'habitude. Mais précisément, en nous liant à tous ces désirs, en nous rendant dépendants d'eux et donc de lui, de celui qui nous les fait désirer, c'est la liberté même que nous lui abandonnons. C'est ça la grande leçon du texte. Et c'est très important. C'est très important. Mais c'est inéluctable. C'est ça qui est aussi grave. C'est que nous ne pouvons pas désirer la seule liberté. Nous la désirons toujours en l'accompagnant d'un autre désir. Désir d'avoir ce qui nous manque. Désir de plus de pouvoir. Mais cette seule liberté, en fait, elle est là, mais elle ne nous satisfait jamais comme telle. Et c'est ce que comprend très bien le pouvoir qui nous a servi.
Mais est-ce véritablement une absurdité ? C'est aussi une chose que Rousseau va dire, d'abdiquer sa liberté. Et sur le papier, on est tous d'accord. Qui voudrait être esclave plutôt que libre ? Mais la liberté a quelque chose, au-delà d'être une forme sans contenu, de proprement effrayant. Il faut être à la hauteur de cette liberté. Il faut savoir en faire quelque chose qui soit à la hauteur de l'humanité dont vous parliez, Paul
Audy. C'est vrai, et c'est là que Rousseau entre en jeu, si vous voulez, puisque face à cette énigme du retournement de la liberté contre elle-même, ou de l'instrumentalisation de la liberté qui est faite par un pouvoir dominant, c'est là qu'il invente en quelque sorte un sens à ce qu'il appelle le contrat social, qui n'est pas sa propre notion, mais qu'il hérite d'une tradition de philosophie politique, mais il lui donne un sens tout à fait nouveau, en ce sens que dans l'abdication du contrat, il y a quelque chose qui fait que la liberté se récupère elle-même. Mais à la condition, précisément, que le contrat donne lieu à un état égalitaire dans lequel nous sommes tous égaux en droit.
Paul Audy, je vais vous demander de faire un choix. On a un texte de Rousseau que vous avez choisi, mais on a aussi la voix de Pierre Clastre, qui a commenté la Boétie, je l'ai dit. Lequel des deux ?
Eh bien, j'aimerais beaucoup entendre la voix de Pierre Clastre.
Le chef, il est d'emblée, en tant que chef, installé dans le domaine de la parole. Il est dans la dette et il paye sa dette, entre autres, sous forme de discours. Le chef, c'est l'homme à qui on peut aller demander n'importe quoi. Il ne peut littéralement pas refuser, sinon il se ridiculise complètement, il perd son prestige et il n'est plus reconnu comme leader. Naturellement, dans ces sociétés-là, où non seulement chaque société, mais chaque membre de la société est autosuffisant, ce que les gens peuvent demander au chef, ça ne peut pas aller très loin. Encore faut-il que le chef détienne ce petit surplus qui alimentera les éventuelles demandes qu'il ne peut pas repousser, des gens de sa tribu. Comme il est sans pouvoir, il va évidemment pas pouvoir dire à quelqu'un d'autre « fabrique ça pour moi », c'est lui qui va le produire, lui-même et sa femme ou ses femmes. Le seul lieu où le travail apparaît dans la société primitive, c'est-à-dire le travail comme travail aliéné, c'est-à-dire le travail dont le produit va vers les autres, eh bien c'est au niveau du chef. Le seul homme qui travaille dans une communauté primitive, en schématisant un peu mais vraiment à peine, c'est le chef.
La voix de Pierre Clastres, c'était le 18 février 1975 dans un atelier de création radiophonique diffusé sur France Culture. Vous l'avez compris, Paul Eudy, Pierre Clastres parle du chef dans ce qu'il appelle les sociétés primitives sur lesquelles il a travaillé en Amérique du Sud. Et quand Pierre Clastres lit la Boétie, il se dit oui, la possibilité d'une société sans État, sans chef tel qu'on l'entend, est possible. C'est le chef dont il nous a fait la description dans cette archive.
Oui, c'est-à-dire qu'il comprend que la société est politique et que la politique n'est pas une superstructure qui vient en quelque sorte coiffer la société. Elle est politique dans l'interaction même des membres de la société, et cette interaction n'est pas une interaction de pouvoir. Elle n'est pas une interaction qui divise les uns et les autres ou qui les hiérarchise. Et c'est ce qu'il découvre dans les sociétés primitives de ces populations amazoniennes, dans ces sociétés au Brésil, où la figure du chef, en quelque sorte, a une fonction qui n'est pas une fonction de structuration de la société, parce que la structuration de la société n'a pas besoin d'un chef. Il a une autre fonction. Et c'est en ce sens-là que Clastres a parlé de société contre l'État. L'État n'est pas là comme une forme organisationnelle de la vie sociale. Il n'y a pas d'État, précisément, ou même il y a une volonté de repousser cette organisation au maximum. C'est en ce sens-là que le chef a plus de devoirs que de droits dans ce type de société.
Oui, son plus, c'est pas du pouvoir en plus. C'est pas d'être un contre tous, c'est d'être même un peu en dessous. C'est-à-dire, son plus, c'est d'être en moins, d'être
oui,
au service de la société.
Absolument. Et de faire exister ce tous un au pluriel dont parle la Boétie. Et si vous voulez, si je devais résumer les choses, résumer le sens de cette lecture, je vous dirais que ce qu'apporte la Boétie, c'est de nous armer de cette question que nous devons en quelque sorte utiliser dès lors que nous sommes en face d'un événement politique. Quelle est la teneur en liberté de cet événement ? Quelle est la teneur en liberté de cet événement ? Où se situe l'exigence de liberté ou d'appropriation de la liberté quand les hommes agissent ? C'est une immense question. Elle n'a rien à voir avec le pouvoir. Le pouvoir est en quelque sorte encore une autre question. Mais pour juger, si vous voulez, par exemple, d'un régime politique ou d'une situation politique, La Boétie nous conduit à nous poser la question, mais quel est le coefficient de liberté qui est en jeu là-dedans? Et ça, c'est tout à fait nouveau.
Je ne peux plus dire je t'aime. Ne me demande pas pourquoi. Je ne ressens ni joie ni peine. Quand tes yeux se posent sur moi. Si la solitude te pèse, quand tu viens à passer par là, et qu'un ami t'a oublié, tu peux toujours compter sur moi. I'll let it run, let it in. I'll let it run, run.
Cette chanson de Jacques Higelin, Paul le dit, pour introduire cette séquence de fin d'émission après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, l'étincelle, comme vous avez dit, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas du tout à lire ou que vous parvenez très bien à lire mais que vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi ?
J'ai eu du mal à répondre à cette question et puis finalement je vous dirai.
Est-ce qu'il y en a trop ou pas assez ?
Non, c'est je suis curieux de tout. Je ne vais pas spontanément vers. Je vais même directement vers les choses que je crois pouvoir me résister. Enfin bon, c'est. Mais.
Non, vous êtes philosophe.
Mais je dois vous dire que je n'arrive pas à lire. Louis Ferdinand Céline, il y a quelque chose qui là résiste durement. Et j'ai pourtant fait beaucoup d'efforts. Lorsque j'avais 20 ans, j'ai lu Le Voyage au bout de la nuit péniblement. Mais après, je n'ai pas pu aller plus loin. Et j'ai essayé à plusieurs reprises dans ma vie de le rouvrir. Mais c'est pas possible.
Mais c'est une question aussi de qui il est
De tout. De qui il est, de ce qu'il a à dire, de la manière dont il le dit, de ce portrait d'un nihilisme grandeur nature. Il y a quelque chose qui m'est insupportable. Évidemment, tout ce que je sais de son antisémitisme, de son appel au meurtre collectif, est quelque chose qui me rebute, évidemment. Mais c'est pas seulement ça. C'est l'œuvre entière. Enfin, et son artifice très profond qui m'est étranger.
Merci beaucoup, Paul Audy. De vous, on peut lire Tenir tête, paru aux éditions Stock, ainsi que Troublante identité, puisque vous avez évoqué la question de l'identité, aux éditions Verdier. Je signale la réédition de Réclamer justice et dans quelques jours apparaître aux éditions Flammarion, Le vrai du beau regard sur la peinture. Pour lire le discours de la servitude volontaire de la Boétie, il est disponible aux éditions Payot, suivi de l'essai de Pierre Classe dont on a parlé. Un grand merci à toute l'équipe, Manon Delasselle, Corinne Amar, à Nicolas Berger à la réalisation et à la lecture des textes, à Ludovic Augier à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.